Alors, on va commencer notre 50e leçon dans notre série « Le péché, les 10 commandements, la grâce ». Aujourd'hui, on va voir le calvinisme et le fondamentalisme. Alors, certains se posent la question, les calvinistes sont-ils des fondamentalistes? Bien sûr, il est difficile de répondre à une pareille question sans définir soigneusement nos termes. Il y a un certain mépris rattaché au mot « fondamentaliste » de nos jours, parce que certains croient que le mot véhicule l'idée d'un ultra-conservatisme, et cela dans le domaine religieux en général. Par exemple, on parle des fondamentalistes musulmans. L'idée de fermeture et d'étroitesse d'esprit, de militantisme violent et d'exclusivisme y est souvent rattaché. Ce n'est pas ce dont nous voulons parler, mais bien du fondamentalisme chrétien. Alors, le mot « fondamentaliste », aujourd'hui, il est élargi dans toute le religieux en général, qui ne comprend pas uniquement. Nous, on va parler uniquement du fondamentalisme chrétien. Alors, c'est différent. Alors, c'est important de faire la distinction. Sinon, quand on parle des fondamentalistes musulmans, on ne parle pas de la même chose qu'avec les fondamentalistes chrétiens. Alors, on est en droit de se poser les questions suivantes. Qu'est-ce que le fondamentalisme chrétien? Quelle est son histoire? Quelles idées défend-il ou fait-il la promotion? L'importance du phénomène et de ses relations avec l'ensemble du christianisme en général. Donc, on va commencer par quelques notions très, très générales sur l'histoire du fondamentalisme chrétien. Alors, la fin du 19e siècle et les débuts du 20e siècle ont apporté des attaques importantes et violentes sur plusieurs doctrines chrétiennes par les promoteurs du modernisme théologique. Alors, on va les nommer, ces attaques-là. D'abord, il y a eu la théorie de l'évolution, donc, qui amène le rejet du créationnisme. Il y a eu beaucoup de chicanes sur la question de l'inspiration, l'inhérence et l'autorité des Écritures, et aussi la promotion de traductions de la Bible plus que douteuses. Alors, fin du 19e, début du 20e, il y a eu beaucoup d'affaires, de discussions, d'ostinations concernant ce qu'on dit, l'inspiration, l'inhérence, et aussi la rentrée sur le marché de beaucoup de versions qu'on peut dire qui sont vraiment plus que douteuses. Il y a eu aussi beaucoup d'attaques concernant la divinité et l'œuvre de Jésus-Christ. Il y a eu aussi des remises en question de la doctrine du salut et de la justification, donc ce qu'on a appelé l'inclusivisme des grandes religions. Autrement dit, l'idée, c'est en train de te dire que toutes les religions sont bonnes, toutes les religions mènent à Dieu. Alors, c'est un peu l'introduction dans les églises chrétiennes de cette idée-là, qui est maintenant très répandue. Après ça, il y a eu l'infiltration des écoles bibliques par des professeurs à tendance théologique libérale qui ont introduit de très importantes erreurs théologiques. Alors, de là vient la chicane entre les fondamentalistes et les libéraux qui introduisaient ces hommes-là dans les écoles bibliques et, bien sûr, les conservateurs qui croyaient aux doctrines fondamentales ont voulu rejeter ces gens-là. Et ça a créé vraiment des conflits énormes aux États-Unis dans ces années-là, là, 1920, 1930, 1940, 50. Alors, il y a eu aussi le développement du communisme et de son athéisme. Alors, on sait que 1914, après la guerre, il y a eu le développement du communisme en URSS et tout ça. Alors, c'est tous des facteurs qui finissaient par influencer le christianisme. Après ça, il y a eu le féminisme. Alors, le féminisme s'est développé, bien sûr. Au début, c'était pas très fort, là, mais ça s'est devenu très, très fort. Et c'est venu fort au point qu'on a voulu faire des Bibles où on appelait Dieu au féminin, des genres de choses semblables. Après ça, il y a eu la libération des mœurs. On le sait, après la guerre, tu sais, les années folles qu'on a appelées, là, le monde se lâche à l'os après la guerre. Et ça, c'est toutes des affaires qui finissaient par influencer les églises. Alors, toutes ces attaques-là ont amené les théologiens conservateurs. Et ici, la chose à remarquer, c'est que le fondamentalisme, c'est l'unité faite entre les calvinistes et les arméniens pour défendre la Bible. Mais on sait que quand tu mélanges deux choses qui ne se mélangent pas, ça finit par créer des problèmes. Alors, mais c'est important de savoir que c'est, en général, les théologiens qu'on pourrait dire conservateurs, tant les calvinistes que les arméniens. Ils ont réagi à toutes ces choses-là pour défendre la Bible et la foi. Alors, durant les années 1910, ils se concertèrent, autrement dit, tout ce monde-là se sont réunis, et ils ont fait imprimer et distribuer à très fort tirage un document intitulé « The Fundamentals, a Testimony to the Truth ». Donc, ils ont publié un document qui s'appelait « The Fundamentals », autrement dit, « Les fondamentaux, un témoignage à la vérité ». Et ils ont distribué ça à travers tous les États-Unis et ailleurs dans le monde. Alors, il s'est suivi de ça, de grandes batailles théologiques, et tout cela eut tendance à développer des camps idéologiques très différents. Alors, ça a créé deux camps, les libéraux d'un bord, les conservateurs de l'autre, mais les conservateurs mélangés, on pourrait dire. Alors, c'est important de le savoir parce qu'on va voir que ça a amené des modifications dans certaines églises. Alors, on vient de voir un peu très, très, très brièvement son histoire. Maintenant, la nature de ce mouvement religieux, alors on peut voir vraiment un mouvement religieux inter-ecclésiastique. Mouvement conservateur, là, ça prenait des gens d'à peu près toutes les dénominations qui croyaient à l'inspiration de la Bible, croyaient à la divinité de Jésus, etc., etc., qui se sont mis ensemble et qui ont voulu s'opposer aux idées libérales qui entraient dans le monde à cette époque-là. Alors, la plupart des grandes dénominations étant attachées aux Saintes Écritures se sont assemblées. Ils établirent une base commune de doctrines sur lesquelles beaucoup d'entre eux s'entendirent. Le tout développa un état d'esprit, le séparatisme militant. Alors, état d'esprit, c'est bien important de comprendre d'où vient le fondamentalisme chrétien, leur esprit de combativité et de séparation d'à peu près tout. C'est vraiment l'idée que ils ont défini des doctrines, puis ils ont dit tous ceux qui adhèrent pas à ça sont comme à l'extérieur du camp, autrement dit. Alors, leur engagement à tout ce monde-là tournait autour d'un noyau de doctrine considérée fondamentale. De là vient le mot fondamentalisme. Alors, leur fameux document « Fundamentals », le mot « fondamentaliste » vient de ce document-là. Alors, à cette époque, les fondamentalistes étaient des calvinistes, des dispensationalistes et d'autres chrétiens conservateurs qui s'unissaient pour lutter ensemble contre des dérives théologiques. Les doctrines fondamentales, on va les nommer, et c'est là qu'on va voir, quand on pose la question, est-ce que nous, on est... est-ce qu'on est fondamentaliste? On va voir que la réponse est oui et non. Alors, on va voir pourquoi oui, puis pourquoi non. Les doctrines fondamentales qui ont établi, sur lesquelles ils disaient, ça, c'est comme un fondement, c'est comme la base, c'est comme un solage. On s'entend que tout le monde dit, ça, c'est correct. Alors, on avait, premièrement, l'inspiration, l'inhérence et l'autorité de la Bible. Donc, c'était vraiment un retour aux Écritures, parce que toutes les idées libérales qui étaient rentrées dans les écoles bibliques, c'était des dérives en dehors des Écritures. Alors, tout le monde a dit, oh, on revient aux Écritures. La deuxième idée, c'est vraiment la déité de Christ, autrement dit, l'affirmation claire que Christ est Dieu. Et aussi sa naissance virginale. Alors, à cette époque-là, il y avait beaucoup d'écrits qui circulaient comme de quoi que Christ était la naissance virginale, il ne croyait pas cette doctrine-là. Après ça, on a eu l'expiation substitutive. Après ça, on a eu la justification par la foi. C'est pour dire, quand on observe un peu l'histoire, la justification par la foi, ce n'est pas d'hier que c'est tout. Il y a un champ de bataille autour de ça. Regarde, au début, les fondamentalismes, c'était un champ de bataille. Et quand on regarde aujourd'hui, les nouvelles tendances qu'il y a dans les... ça revient continuellement, continuellement. Ça change de nom, mais ça revient continuellement. Alors, la justification par la foi était au centre. La résurrection physique de Jésus-Christ. Alors, on amenait des idées comme de quoi que ouais, la résurrection, c'était plutôt une idée intellectuelle. Ça ne correspondait pas à vraiment Christ mort dans son corps et que Dieu lui a redonné la vie. Alors, c'est... Après ça, il y avait la deuxième venue, corporelle. Alors, il y en a beaucoup qui développaient l'idée que Christ est revenu. Eux, ils disaient, oui, il va revenir, mais quand il va revenir, ça va être avec son corps. Et tout le monde va le voir. Alors, bien sûr, on a vu dans les affaires des Adventistes, les témoins de Jéhovah, ils disent qu'il est revenu, qu'il est dans le sanctuaire. Ce n'est pas vraiment un retour physique. Alors, après ça, il y avait la réalité des miracles de Jésus. On sait qu'à cette époque-là, il y avait beaucoup de libéraux qui prenaient la Bible, ils lisaient la Bible avec des lunettes d'inconvertis. Autrement dit, le déluge, c'était pas un déluge, les miracles, c'était pas des miracles, etc. Alors, ils défaisaient la Bible partout où il y avait des miracles, ils disaient que c'était pas des miracles. Alors, eux autres se sont entendus, ils ont dit, les fondamentaux de la foi, là, c'est ça. Si tu n'adhères pas à ça, on peut douter que tu es chrétien. Alors, le mouvement fondamentaliste se distinguait par sa volonté de défendre la foi, dénoncer le mal et les fausses doctrines. Alors, le combat changea de forme au cours des décennies qui suivirent. Bien sûr, on parle de 1910. C'est sûr qu'avec les années, le fondamentalisme a changé de forme. C'est ce qu'on va regarder un petit peu. Alors, les années 1920-1930, ça a été surtout de combattre le modernisme et le libéralisme. Alors, les années 40, aller jusqu'aux années 60, ça a été vraiment le développement du mouvement néo-évangélique. Alors, ça, on connaît ça, parce que c'est dans notre, à peu près dans notre âge. Là, il y a eu, le fondamentalisme s'est distingué de certaines affaires, mais le néo-évangélisme, ça le dit néo, ça veut dire nouveau. La nouvelle évangile, alors c'est les chrétiens qui étaient un petit peu plus... on pourrait dire en québécois, lousse, sur certaines doctrines qui ont commencé à se rassembler. Alors, dans les années 40 à 60, l'emphase, le combat des fondamentalistes, ça a été contre le développement du néo-évangélisme. Ils disaient, faites attention, vous êtes en train de faire du compromis, etc., etc. Alors, l'emphase du mouvement a changé de place. C'est d'en aller sur le développement du mouvement néo-évangélique. Les fondamentalistes ont aussi combattu et la forme du combat a changé dans les années 70 à 2000. Les années 70 à 2000, ça a été le développement de mouvements qui menaçaient les églises. Alors, on pourrait allonger la liste, là. Tu avais les Promise Keepers. Tu avais le mouvement de la psychologie qui rentrait dans les églises. Tu avais aussi certains documents qui ont été signés à l'époque par des personnes qui cherchaient à se réunifier avec les catholiques. Regardez, il y a des grands noms là-dedans que c'est très bizarre de voir que ces personnes-là ont signé ce document-là, qui s'appelait « Evangelicals and Catholics Together ». Alors, ça, le mot le dit, « les évangéliques et les catholiques ensemble ». Ça, c'est un document sur lequel il y a beaucoup de néo-évangéliques et même certains grands leaders calvinistes ont signé ça. Pour moi, quand j'ai lu ça la première fois, là, je disais, ah non, pas lui. Il a signé ça. J'en revenais pas. Mais en tout cas, le fondamentalisme, on commencé vraiment à attaquer ça, en voulant dire, ça n'a pas de sens ce que vous faites là. Alors, on voit que le mouvement change de place. Là. Après ça, tu as le développement aussi des réseaux de télévision chrétiens, comme TBN. Moi, quand j'ai été en Ontario, je ne connaissais pas ça quand j'étais au Québec, mais en Ontario, ces postes-là rentrent clairs comme si on prendrait les Canal 10 ou ici. Là. Ça rentre, là, on écoute ça, puis c'est clair, 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 puis on n'a pas besoin de payer. Et TBN, c'est un ensemble de prédicateurs qui sont là-dessus, ça marche presque 24 heures par jour. Et vraiment, là, tu as à peu près toutes les tendances possibles imaginables. Et alors, c'est un réseau de télévision très puissant, non seulement aux États-Unis, mais dans l'ensemble du monde. Et quand tu regardes les doctrines qu'ils prêchent, c'est vraiment là, plus que millimélo. Alors, c'est ça que ça a pour effet, ça mélange le monde. Alors, les les fondamentalistes se sont mis à attaquer toutes ces affaires-là. Alors, il y a eu aussi à cette époque-là, de 1910 à 2000, la promotion aveugle de l'écuménisme. Autrement dit, on doit s'unir à n'importe quel prix. Alors, les fondamentalistes ont dit non, non, ça ne marche pas de même. Alors, après ça, il y a eu des télé-évangéliques douteux, comme Benny Hinn et d'autres. Alors, il y en a toute une série, là. Quelqu'un qui va écouter, disons, TBN pendant une semaine, il les voit toutes. Là. Ils sont toutes là. Ils ont toutes leur émission, leur demi-heure, leur heure. Et ils sont toutes là, là. Et quand on regarde les livres qui ont été écrits sur certains leaders qui apparaissent de façon régulière à TBN, on est surpris de voir à quel point il y a une dérive théologique terrible. Mm-hmm. Alors, les fondamentalistes dénonçaient ces gens-là, et ça, ils faisaient un bon travail là-dessus. Après ça, il y avait l'évangile de la prospérité. Ça, c'est une autre affaire qui a été promue très fortement dans certains milieux « chrétiens », de guillemets. Alors, les fondamentalistes ont dénoncé ça aussi. Alors, ce militantisme, autrement dit, c'est toujours en train d'ostiner quand tu es en guerre contre ces gens-là. Il s'exprimait de deux façons principales. Le combat théologique et la séparation ecclésiastique et organisationnelle de l'apostasie. Autrement dit, ça s'exprimait de deux façons. Tu dénonces les erreurs théologiques et aussi tu invites les gens à te séparer de ces gens-là. Alors, la séparation ecclésiastique, ça veut dire que tu te sépares de personnes qui se disent croyants, mais que par leur pratique, démontrent que plus ou moins croyants. Alors, ces affaires-là, ça a fini par emmener lorsqu'on appelle la séparation des frères désobéissants. La question la plus difficile est la suivante. Quand doit-on se séparer de d'autres corps de croyants et quelle base utiliser pour justifier nos actions et nos comportements? Alors, des fois, c'est justifié, mais des fois, ça peut aller trop loin. Alors, c'est ce qu'on va voir un petit peu. Alors, le troisième point qu'on regarde, c'est justement le développement d'abus. Alors, c'est là que les doctrines de la grâce, le mouvement réformé en général, va se distancer un peu de tout cela pour différentes raisons qu'on va regarder. Alors, il arrive qu'un mouvement basé sur de solides assises dérape et ne produise plus les fruits voulus. Les réformés continuent d'appuyer et défendre les idées théologiques, les sept doctrines qu'on a vues tantôt, telles que définies dans le document « The Fundamentals, a Testimony of the Truth ». Cependant, la théologie réformée moderne veut se distancer du fondamentalisme et de ses abus à cause des raisons suivantes qu'elle considère comme étant très significatives. Autrement dit, c'est ce qu'on leur reproche. Alors, on va nommer les différentes choses que les réformés reprochent aux fondamentalistes. Alors, ils leur reprochent, premièrement, leur absence de perspective historique. Perspective historique, c'est important, il faut que tu regardes ce qui s'est passé au cours de l'histoire. Deuxième chose qu'ils leur reprochent, c'est l'ignorance de la grande diversité des genres littéraires de la Bible. Alors, il y a eu vraiment un littéralisme dans le milieu fondamentaliste qui s'est installé, un littéralisme, un peu, on pourrait dire, de bois. Ce qui fait en sorte qu'ils ne tiennent pas compte de tous les différents genres littéraires qu'il y a dans la Bible. Il y a de la poésie, et il y a toutes sortes de choses. Ils n'interprètent pas les choses de la même façon, dépendamment du genre littéraire des Écritures. Alors, ils leur reprochent ça parce qu'ils ont tendance à être un peu littéral en toutes choses. La troisième, la tendance à mépriser l'érudition, l'anti-intellectualisme et l'aversion pour la formation théologique poussée. Alors, dans certains milieux fondamentaux, on a tendance à mépriser les personnes qui mettent beaucoup l'emphase sur l'instruction théologique. Alors, pour eux, « Ah, c'est la Bible, c'est la Bible. » Mais si quelqu'un veut faire un doctorat, c'est comme « Ah, ça, c'est pas bon. » C'est ce que le mouvement réformé leur reproche, souvent, de ne pas d'être anti-intellectuel, et d'avoir une aversion pour la formation théologique poussée. Alors, on sait que dans les milieux réformés, ce n'est pas le cas. Quatrièmement, leur refuge dans des confessions de foi qu'on pourrait dire squelettiques, superficielles, plutôt que des confessions de foi détaillées et historiques. Alors, c'est sûr que quand tu regardes des fois certains sites, les confessions de foi, là, c'est à peu près 10 phrases. Alors, moi, je me souviens qu'est-ce qu'on m'avait enseigné à l'école biblique, et je l'ai retenu depuis ce temps-là. Regarde pas ce qui est écrit, regarde ce qui n'est pas écrit. Et ça fait une très grosse différence. Parce que quand tu fais... Vois-tu, nous, on adhère à une confession de foi très détaillée, très, très structurée, confession de foi 1689. Ça explique nos positions sur à peu près toutes les doctrines. Alors qu'eux ont tendance à résumer tellement que ça finit par plus dire quelque chose. Ou dire du moins... peut laisser, ça laisse trop de place. La cinquième chose qu'on leur reproche, c'est leur tendance à imposer des règles qu'on pourrait appeler légalistes. Alors, protester contre les films modernes comme Harry Potter, imposer une version particulière exclusive comme la King James, jouer sur les sentiments de culpabilité des croyants au lieu d'une théologie de la sanctification basée sur l'Évangile. Autrement dit, le milieu fondamentaliste, donc aux États-Unis, il y a eu comme des dérives dans le sens, t'as plus le droit d'aller te baigner, t'as plus le droit, toutes sortes de choses semblables, beaucoup de réglementations qui n'est pas basée sur une sanctification basée sur l'Évangile. La sixième chose qu'on leur reproche, peu d'efforts pour avoir un impact social dans la communauté. Alors, quand tu deviens trop séparatiste, tu n'as plus tendance à t'impliquer dans quoi que ce soit du local, d'avoir un impact dans ta communauté. Autrement dit, tu te sépares du monde, tu es voué comme des méchants, des païens. Oui, c'est vrai que c'est ça, là. Mais ça ne nous empêche pas de les aimer pareil, un peu comme le Seigneur quand il est venu sur la terre. Il a aimé même les gens qui n'ont jamais été sauvés. Septième chose qu'on leur reproche, trop d'emphase sur le dispensationalisme et le prémillénarisme. Alors ici, là, dans les églises fondamentaux, je sais que c'est vrai, là, parce que la plupart des fondamentalistes sont dispensationalistes, la plupart des fondamentalistes sont prémillénaristes, prémillénaristes, pas prémillénaristes historiques, mais prémillénaristes, l'enlèvement et toutes ces choses-là, prémillénaristes, dispensationalistes. Alors, et aussi, ça les a amenés... à rejeter et à avoir un jugement très sévère sur tous ceux qui n'adoptent pas leur position. Alors, eux, ceux qui ne sont pas dispensationalistes, ceux qui ne sont pas prémillénaristes dispensationalistes, pour eux, c'est comme des hérétiques. Oh, la huitième point, leur tendance à démoniser leurs opposants et ceux qui dénoncent leurs abus. Alors, si quelqu'un voit leurs problèmes et qu'il les dénonce, démoniser, ça veut dire il te voit comme étant un instrument de Satan. La neuvième, amener des changements politiques par la force brute plutôt que par la persuasion. Alors, on voit que dans ce milieu-là, il y aurait des personnes qui seraient plus portées à vouloir imposer des choses par la force plutôt que par la persuasion. Après ça, la dixième, une tendance nette vers l'arminianisme dans leur théologie. Alors, ce qu'on appelle en théologie l'approche synergiste au lieu de monergiste. Alors, ça, c'est bien important quand on regarde l'ensemble des dérives. C'est pour ça que les réformés ont dit, oui, sur vos sept doctrines fondamentales, oui, oui, on est d'accord là-dessus, mais il faut aller plus loin, il faut regarder aussi où vos positions amènent le mouvement chrétien, et ils ont eu tendance à dire, nous, on veut se distancer de tout cela. Alors, la question qu'on pourrait se poser, est-ce que le mouvement fondamentalisme chrétien est-il en croissance ou en décroissance? Alors, les observateurs affirment que le mouvement actuellement dans le monde est en décroissance. Alors, le deuxième point qu'on va regarder, l'enseignement biblique sur la séparation ecclésiastique. Quand on disait tantôt « séparer des frères », quand est-ce qu'on doit le faire, comment on doit le faire, ce n'est pas des questions nécessairement faciles, parce que même au niveau local, des fois, on a des positions à prendre. Est-ce qu'on travaille avec ces gens-là? Sur quelle base? Sur quel événement on peut participer? Quel événement on doit ne pas participer? C'est toujours, on marche toujours jusqu'à un certain point, jusqu'à des jeux. C'est jamais facile. On peut jamais dire, on prend une position, puis ça règle tous les problèmes de toutes les possibilités. On dirait que c'est quasiment un examen cas par cas. Et là, on décide, oui, là-dessus, on y va. Et d'autres affaires, non, là-dessus, on n'y va pas. C'est délicat, comme on dit. Alors, il n'est pas facile d'avoir de l'équilibre dans l'application de la doctrine de la séparation ecclésiastique. Bien sûr, la Bible en parle. En Matthieu 5, 48, Alors le Seigneur nous dit, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. En Romains 12, versets 1 et 2, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon. Alors, j'avais déjà fait des études, moi, sur la séparation ecclésiastique. C'est très intéressant de voir, surtout quand on voit dans le concret, là, il arrive telle affaire. En tout cas, quand est arrivé le mouvement des Promise Keepers, je me souviens, j'étais à Côte-Noire à cette époque-là, et les églises étaient sollicitées pour embarquer là-dedans. Et je voyais des églises qui embarquaient dans le mouvement. Ils laissaient leurs jeunes aller là dans les fins de semaine. Là, il y avait des fins de semaine, 70 à 80 000 personnes ensemble. Ça influence les gens. Il y avait des doctrines qui étaient prêchées là-dedans. Il y avait des pratiques qui étaient faites là-dedans. Alors, il faut que tu prennes une position. Tu ne peux pas dire, on fait juste ignorer. Il fallait qu'on étudie le mouvement. Il fallait qu'on regarde le pour puis le contre. Puis il fallait qu'on prenne une décision. Alors, moi, à l'époque, je me souviens que j'étais contre ces affaires-là parce que je voyais où ça s'en allait et je voyais aussi certaines lacunes dans l'acceptation de ceux qui faisaient partie du mouvement. Ils acceptaient les homosexuels, ils acceptaient les catholiques, n'importe quoi. Alors, moi, je me suis dit, moi, personnellement, j'aurais été en charge d'une église à cette époque-là, j'aurais dit, non, les gens n'allaient pas là. Mais s'ils vont pareil, bien là, ils ne peuvent pas vraiment faire grand-chose, mais au moins, autoritairement, de l'église, tu aurais pu dire, je vous conseille de ne pas aller là. Alors, ça, c'est un exemple. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, versets 6 à 15. Nous vous recommandons, frères, au nom du Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre, et non selon les instruments que vous avez reçus. Alors, tout est dans l'interprétation. T'éloigner d'un frère qui vit dans le désordre, c'est quoi un frère qui vit dans le désordre, puis comment tu le définis, puis comment... Alors, il dit dans le verset 7, vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons pas mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'en eussions pas le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous avons dit par cette lettre, notez-le et n'ayez point de communication avec lui afin qu'il éprouve de la honte. Voyez-vous, verset 14 dit vraiment qu'il faut que tu te sépares éventuellement de ceux qui désobéissent à la Bible. Mais la difficulté, c'est toujours d'établir à partir de quoi il faut qu'il fasse pour que tu le fasses. C'est pas toujours facile. Alors, verset 15, ne regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Alors, les composantes de la doctrine de la séparation interecclésiastique, autrement dit, on devrait se séparer de d'autres corps de croyants sur quelle base? Bien entendu, une des bases, c'est la séparation de la fausse doctrine. Alors, 1 Corinthiens 11, versets 18 et 19. « Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissiez ensemble, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie. Car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. » 1 Timothée, chapitre 6, versets 3 à 5. « Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété. Il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement et privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. » Alors, on a 2 Timothée, chapitre 2, versets 16 à 21 aussi. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée, et qui renversent la foi de quelques-uns. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un ne se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Apocalypse, chapitre 2, versets 14 à 16, « Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repends-toi donc, sinon je viendrai à toi et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. » Donc, la séparation de la fausse doctrine, on pourrait aller beaucoup plus loin là-dedans. C'est juste une petite introduction. Séparation ecclésiastique. À partir de quand on se sépare de quelqu'un à cause qu'il prêche des fausses doctrines? Bien sûr, se mettre sous un joug étranger. Ça, c'est des affaires qu'on a à faire. On ne peut pas avoir vécu dans une église sans qu'on voit des choses comme ça arriver. C'est sûr que ça va nous arriver. C'est arrivé dans toutes les églises et ça va continuer d'arriver aussi. 2 Corinthiens, chapitre 6, versets 14 à 18. Autrement dit, la séparation, quand quelqu'un dans l'église fait un comportement qui lui est nuisible non seulement à lui, mais aux autres, à quelque part, il faut que la discipline fasse le travail de l'exclure. Alors, 2 Corinthiens 6, versets 14 à 18. « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi, voyez-vous, le verset 17 nous dit, « Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. » Et je serai pour vous un père, vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Alors, qu'est-ce qui est compris là-dedans? Normalement, c'est un chrétien qui se met en affaire avec un inconverti, ou un chrétien ou une chrétienne qui veut se marier avec un inconverti. Alors, en général, c'est les situations qui arrivent et qu'on ne peut pas les ignorer. Elle va se marier avec un inconverti, c'est pas grave. C'est pas de même, ça marche. Parce que le Seigneur nous dit, séparer d'eux. Alors, la séparation aussi des faux enseignements, Romains 16, versets 17 et 18, « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. » Voyez-vous, un autre, « Éloignez-vous d'eux. » Alors, te séparer, éloigner, mais c'est toujours dans quelle mesure et quand. « À garde de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais à leur propre ventre, et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des saints. » Et bien entendu, on a la séparation de corps de croyants qui prêchent un autre évangile. Alors là, encore là, c'est quoi la définition d'un autre évangile? À partir de quel moment on exclut les personnes, on n'a plus de rapport avec vous autres parce que vous ne prêchez plus l'évangile. Alors, comme actuellement, le mouvement qui est aux États-Unis sur la justification... Il faut vraiment que tu te sépares de ça, parce que sinon, ça va t'emmener bien loin. Alors, Galates 1, versets 6 à 10, « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais qu'il y a des gens qui vous troublent, qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit... anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Et 2 Corinthiens, chapitre 11, versets 3 et 4. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Alors, bien entendu, aussi, la dernière chose, la séparation de ceux qui enseignent les erreurs concernant Christ. Alors, on a 1 Jean, chapitre 4, verset 1 à 3. « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. 2 Jean, chapitre 1, verset 10 et 11. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas « salut », car celui qui dit « salut » participe à ses mauvaises œuvres. Bien entendu, on a aussi la séparation avec l'apostasie organisée. Apocalypse 18, verset 4, « Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. » Alors, c'est une doctrine biblique, la séparation théologique, mais c'est toujours très délicat dans le quotidien à prendre des décisions là-dessus. Mais normalement, si on se laisse conduire par les Écritures, on arrive à prendre des décisions éclairées. Alors, j'ai mis 3 applications. Rendons grâce au Seigneur d'avoir permis que nous ayons toujours des pasteurs et docteurs compétents et courageux pour défendre le précieux dépôt de la vérité. Alors, voyez-vous, dans les années 1910-1920, et tout le mouvement fondamentaliste, si ces gens-là n'avaient pas été là, aujourd'hui, alors on leur doit beaucoup. Là, mais c'est sûr qu'il y a eu des erreurs, mais on leur doit quand même beaucoup d'avoir défendu la Bible et bien d'autres doctrines. 2e application, prions pour de la sagesse quand il s'agit de s'unir avec d'autres chrétiens pour ne pas tomber dans le compromis ou aller au-delà des enseignements des Saintes Écritures. Alors, bien entendu, je pense qu'il arrive des situations comme ça, la meilleure solution, c'est la prière et la recherche de la volonté de Dieu dans la Bible elle-même. 3e application, soyons vigilants et équilibrés dans l'application des vérités bibliques concernant la séparation ecclésiastique. Par sa grâce et pour sa gloire. Amen.